Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Être renvoyé à une identité que l'on ne reconnaît pas, c'est la mésaventure vécue par Ava, personnage principal du dernier livre de Suzanne Azmayesh, L'Interrogatoire, publié aux éditions Léo Scherer. Venue en Israël pour assister au mariage de la cousine de son conjoint, Ava est confrontée à la suspicion de la police des frontières. La jeune femme est née en France, mais sa famille est originaire d'Iran, un pays qu'elle ne connaît pas et avec lequel Israël entretient des relations difficiles. Un récit sur l'identité, sur les stéréotypes sociaux et la difficulté d'être ce que l'on est en toutes circonstances. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale Israël et monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Suzanne Azmayesh.
Bonjour Éric Bataillon.
L'Interrogatoire est un roman avec deux personnages principaux, Ava et Simon. Qui sont-ils ?
Alors Ava est une jeune femme française d'une trentaine d'années qui est d'origine iranienne et Simon est son fiancé. Et ils voyagent tous les deux à l'occasion d'un mariage qui a lieu à Tel Aviv en Israël. Et donc ils se rendent tous les deux à Tel Aviv, atterrissent à l'aéroport Ben Gourion. Et donc, à partir de là, le dispositif narratif se met en place et c'est l'histoire de ces deux personnages qui commencent à se dérouler.
Alors justement, quand ils arrivent à l'aéroport Ben Gourion en Israël, que se passe-t-il pour tous les deux ?
Alors, quand ils arrivent à l'aéroport, donc il y a le contrôle un peu classique des passeports qui est fait à l'arrivée pour délivrer le visa d'entrée. Et donc pour l'essentiel des voyageurs, ça se passe sans problème. Voilà, chacun arrive, obtient son visa et circule. Et au moment où c'est le tour d'Ava et Simon, là, ça devient un peu plus compliqué. On voit tout de suite qu'il y a un petit temps supplémentaire qui est pris, qu'il y a des questionnements qui commencent à se mettre en place. Et finalement, on leur demande d'aller attendre dans une salle à côté en attendant de subir un interrogatoire.
Alors précisons que Simon est juif et que le couple va en Israël pour assister à un mariage d'une cousine de Simon. Est-ce lui qui pose problème ou est-ce Ava ?
Alors évidemment, c'est plutôt Ava qui pose problème. Alors elle se dit que potentiellement, il n'y aura pas de souci puisqu'elle est française, qu'elle a un passeport français, rien de suspect en particulier. Et pourtant, elle a quand même un patronyme qui trahit ses origines iraniennes. Elle a un troisième prénom à connotation musulmane. Donc c'est bien sur elle que les soupçons se posent.
Alors cet interrogatoire contraint oblige Ava à s'interroger sur son identité. Les questions de la police des frontières la renvoient-elles à une culture iranienne à laquelle elle-même ne se sent pas appartenir ?
Effectivement, Ava a ce site particulier qu'elle est née en France de parents iraniens, en tout cas d'origine iranienne, mais issue d'une famille de réfugiés. Elle n'a jamais pu mettre les pieds en Iran, donc elle ne connaît pas du tout ce pays qui, pour elle, est une sorte d'abstraction, puisqu'elle parle persan avec ses parents, elle connaît un petit peu la culture, la cuisine iranienne, mais finalement, ce pays, elle ne le connaît pas du tout. Et le fait d'être renvoyée de manière aussi frontale à ses racines, alors que pour elle, c'est quelque chose d'assez flou, somme toute, lui pose tout à coup un certain nombre de problèmes, de soucis, de difficultés, car elle n'arrive finalement pas si bien à se situer par rapport à ça.
Alors les questions pendant l'interrogatoire, évidemment, vont l'obliger à se questionner elle-même, mais d'une certaine façon, les questions que son compagnon Simon lui avait posées lors de leurs premiers échanges amoureux, ne la renvoyait-il pas déjà vers ce rivage iranien qui lui était plus ou moins connu ?
Si, tout à fait. En fait, Simon a lui aussi des questionnements liés à son héritage juif, à son identité juive, sauf que lui est plutôt dans un judaïsme de l'affirmation. C'est quelque chose dont il est fier et qu'il essaie de s'approprier. Alors qu'Ava a toujours été plus flottante et plus dans l'évitement de ces questions-là. Et effectivement, au début de leur rencontre, Simon s'est tout de suite intéressé à cette culture iranienne, à ses origines. Il l'a beaucoup renvoyé à ça. Et c'est vrai que dès le début de cette relation, ça a été un sujet entre eux. Et Ava se demandait aussi pourquoi est-ce que Simon s'intéressait autant à cette part d'elle-même qui pour elle n'est pas si importante.
Alors que lui-même, Simon, est un énarque français, donc a priori bien intégré dans la culture du pays, très à l'aise dans son milieu au ministère. Lui, il a peut-être un souci d'identité qui vient de la façon dont sa famille a été décimée, on peut le dire, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, en fait, Simon a été élevé dans la culture de la discrétion par rapport à son judaïsme. C'est quelque chose qu'il fallait cacher, que ses grands-parents, sa mère y compris, ont dû plutôt garder sous silence. Et donc, de son côté, il y a cette envie d'affirmer cette part de son héritage qui a été jugée avec honte ou qui était susceptible de les conduire à la mort. Et effectivement, il a perdu une grosse part de sa famille pendant la Shoah, d'où ce rapport à l'identité qui est très différent, puisqu'il s'agit justement de montrer que ce n'est plus un problème aujourd'hui d'être juif. Et c'est quelque chose qui est très important pour Simon.
Alors, Hava, écrivez-vous, aimait cette vision d'une identité ni implacable ni statique, où chacun restait libre de se choisir sans déterminisme. Ce roman est-il donc une réflexion sur l'identité, celle que l'on se donne ou celle que les autres nous attribuent ?
Oui, tout à fait. Le parti pris du livre, c'est de montrer que finalement, ces cases dans lesquelles, par cet interrogatoire, on essaie de mettre Hava sont des cases qui sont artificielles, fausses et construites, puisque la réalité est toujours beaucoup plus compliquée, beaucoup plus singulière que ces pré-catégories dans lesquelles on essaie de mettre les gens, parfois par simplicité, par facilité. Et effectivement, l'identité est quelque chose de beaucoup plus fluctuant. C'est un mélange. Donc pour Hava, c'est le mélange entre la culture française dans laquelle elle a grandi, à laquelle elle s'assimile, mais aussi son histoire familiale dont elle ne peut pas faire abstraction. C'est la manière dont elle-même se projette, ce que les autres voient d'elle. C'est un mélange très compliqué, très complet et qui n'est pas du tout simpliste. Et c'est pour ça que le roman cherche à montrer effectivement que l'identité est toujours une construction et toujours en mutation aussi.
Justement, quelle question cela pose-t-il ? Quelles conséquences l'a-t-il pour un individu comme Hava, qui ne connaît pas grand-chose sinon ce qu'on lui a raconté de l'Iran, de la renvoyer en permanence vers cette identité ? Quelles conséquences ça a pour elle dans son quotidien, dans sa vie personnelle ?
Ce qui est intéressant avec le personnage d'Hava, c'est qu'elle a l'impression la plupart du temps que ça n'existe pas. Qu'elle est une Française comme les autres. À partir du moment où elle sort de chez elle, elle a l'impression d'avoir la même vie que tout le monde. Et c'est à certains moments précis que cette identité ressurgit. Et c'est toujours le sentiment d'un petit décalage à ces moments-là dans la manière dont ça arrive à un moment où elle s'y attend pas forcément, comme pendant cet interrogatoire ou lorsque le voisin de ses parents lui fait remarquer qu'effectivement il y a un encens un peu particulier qui émane de chez eux, qui rappelle l'odeur du brûlé. Elle n'a pas conscience de ça et c'est un petit commentaire d'un petit enfant qui la renvoie à ses bizarreries. Et c'est toujours par moments un peu de discontinuité que ça apparaît. C'est ça aussi qui est intéressant.
Et tout au long du roman, vous semez des bribes de mots iraniens, des allusions à telle ou telle fête, comme Nowruz par exemple, le nouvel an iranien. Suzanne Azmayesh, comme Hava, est-ce que c'est ce qui vous reste de l'Iran ? Ce qu'on vous a raconté ? Ces petites bribes culinaires
oui,
ou les sons ?
Oui, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque de souvenirs familiaux, d'anecdotes racontées par la famille, de choses qu'on imagine, qu'on projette, des fêtes aussi, des traditions qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qu'on essaie de reproduire. C'est effectivement une tradition culinaire. C'est plein de petites choses qui ne forment pas toujours un tout très cohérent, mais qui constituent une invention de ce qu'on imagine être le pays de ses origines.
Justement, est-ce que vous regrettez que vos parents ne vous aient pas donné, enfin les parents d'Eva ne lui aient pas donné plus de choses. D'ailleurs, on peut se demander si ce roman a un petit côté autobiographique. Hein.
Alors, le roman se base sur une part de mon vécu, évidemment, puisque je suis aussi d'origine iranienne comme le personnage principal. Ça reste bien sûr une fiction, mais ce sont, comme beaucoup de gens, je pense, de mon âge et plus jeunes, issus de la deuxième génération, ça reste un témoignage de la complexité de s'approprier cette culture. Alors, est-ce que les parents transmettent trop ou pas assez ? Je pense que c'est pas tellement une question de quantité, c'est aussi la manière dont on arrive à s'approprier cet héritage, la manière dont on souhaite aussi la voir grandir en soi et la transmettre à son tour, sachant que forcément, à chaque génération, certaines choses se perdent. Donc, qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce qu'on peut léguer à son tour quand on est la deuxième génération? C'est aussi une question que pose le roman.
Un roman qui ajoute un côté un peu plus complexe avec cette jeune femme d'origine iranienne et ce jeune homme juif. Vous écrivez d'ailleurs « Ne le prends pas mal, c'est juste qu'un juif et une iranienne dans l'idée, c'est un peu compliqué ». Justement, qu'est-ce qui est compliqué et pourquoi cela devrait-il l'être ?
C'est compliqué à plusieurs égards, c'est compliqué par rapport aux préjugés qui peuvent exister. Simon a peur que sa famille interprète mal ce couple qu'il va former avec une femme non-juive aussi, iranienne, sachant qu'il y a la question de la transmission du judaïsme qui est importante pour ce peuple qui a connu la Shoah et qui est une question très légitime. C'est aussi une question compliquée pour les parents d'Ava qui ont peur de l'antisémitisme qui peut surgir chez les Iraniens éventuellement et qui peut être mal compris. C'est une question par rapport au couple qu'ils forment, à la manière dont ils vont aussi élever leurs enfants s'ils en ont, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on doit mélanger les deux, est-ce qu'on doit choisir, est-ce qu'il y a une compétition entre les deux cultures qui s'installe. C'est plein d'interrogations auxquelles on ne pense pas à la base, mais qui surgissent notamment pendant la préparation de leur mariage, quand ils y pensent, comment vont-ils faire, quelles traditions vont-ils suivre. C'est tous ces questionnements-là qui apparaissent.
Et pendant l'interrogatoire, donc à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, l'un des policiers veut absolument que Ava soit musulmane de religion, alors qu'elle-même dit qu'elle ne sait pas où est Al-Aqsa, la grande mosquée de Jérusalem, et que quand on lui demande « vos parents, ils sont de quelle religion ?», elle dit « soufi », elle ne dit absolument pas « musulmane », parce que pour elle, soufi, c'est la religion et pas une autre. Vers quoi ça renvoie tout ce propos?
Ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie à la difficulté de se positionner par rapport à une question qui peut sembler simple. Quelle est votre religion? On peut penser que c'est facile de répondre et en fait, pour Ava, ça ne l'est pas du tout. Ça pose aussi la question de ce que c'est finalement adhérer à une religion. Est-ce que c'est la foi personnelle? Est-ce que c'est les rites qu'on suit? Est-ce que c'est l'héritage dont on vient? Auquel cas, oui, l'Iran est un pays musulman, le soufisme est un courant de l'islam, donc Ava pourrait se considérer musulmane, mais finalement, il y a plein de choses dans cette religion qui lui posent problème et c'est pas si simple pour elle de répondre oui. Et ça pose aussi la question de l'islam en tant que tel, de la manière dont il peut être aussi perçu en Occident et de la crispation que ça peut provoquer pour cette jeune femme de voir décider si elle adhère ou non à cette religion.
Et même une crispation d'ordre politique, on peut le supposer, à l'aéroport Ben Gurion.
Oui, une crispation d'ordre politique et une crispation qui la renvoie aussi au régime islamique qui a quand même provoqué la fuite de sa famille de l'Iran. Donc cet héritage un peu compliqué par rapport à l'islam pour beaucoup d'Iraniens, puisque c'est quand même le basculement dans l'extrémisme religieux qui a conduit à la fuite et à l'exil de millions de personnes.
Finalement, est-ce que les êtres sont toujours, selon vous, réduits à des stéréotypes dans leur vie quotidienne ?
Je pense que ce n'est pas le cas et qu'on essaie toujours d'y échapper, mais qu'à certains moments, notamment des moments peut-être administratifs ou des moments politique où on doit se positionner à tout prix dans un format prédéfini, c'est ces moments-là aussi où émergent cette difficulté de se positionner quand on se sent beaucoup plus vaste, grand et complexe que les quelques cases auxquelles on veut nous réduire.
Suzanne Azmayesh, on a dit tout à l'heure que ce roman avait un petit côté autobiographique, même si ce n'est pas un roman autobiographique. Mais est-ce que dans votre lien à l'Iran, lien familial essentiellement, est-ce que vous aimeriez aller en Iran? Je ne sais pas si vous y êtes allé déjà.
Non, comme le personnage principal, je ne suis jamais allée en Iran et c'est aussi ce sentiment compliqué vis-à-vis de ce pays qui est un peu une abstraction et que je ne sais pas du tout si je vais connaître un jour qui m'a poussée à travailler sur ce texte. Et bien évidemment, j'aimerais aller en Iran avec la crainte aussi que je sois déçue par rapport au pays un peu imaginaire que j'ai construit par rapport à ces fragments, ces discussions familiales, cet imaginaire que j'ai projeté et qui peut-être ne correspond pas du tout à la réalité.
Et peut-être arrêter et interroger à l'aéroport de Téhéran.
Oui, c'est un grand risque aussi, évidemment.
Merci Suzanne Azmayesh.
Merci beaucoup Eric Bataillon.
Votre roman « L'interrogatoire » est publié aux éditions Léo Cher. Mmh. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire la presse régionale avec nos correspondants. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Et bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence avec vous Alexandre. Quel est l'événement à la une de vos journaux cette semaine ?
C'est évidemment la mort de la reine d'Angleterre. La presse arabe dans son ensemble salue Elisabeth II, d'abord pour sa longévité au pouvoir. Elle a commencé son règne en février 1952, à un moment où la moitié du monde arabe dépendait directement ou indirectement de la couronne britannique. Les soldats anglais occupaient le canal de Suez en Égypte et le Soudan dépendait des royaumes d'Égypte et d'Angleterre. L'Irak, la Jordanie, le Yémen et tous les pays du Golfe, à l'exception de l'Arabie, étaient sous contrôle britannique. Finalement, avec ses 70 ans sur le trône, Elisabeth II a battu tous les chefs d'État arabes qui semblaient inamovibles. Kadhafi en Libye, 42 ans de pouvoir. Moubarak d'Égypte et Hafez al-Assad de Syrie, 30 ans de pouvoir. Et Saddam Hussein, 27 ans seulement. La presse arabe loue aussi la sagesse d'Elisabeth II. Elle a toujours tenu des discours consensuels et n'a jamais publiquement moqué un chef d'État. Un internaute a ressorti à cette occasion un discours du président égyptien Nasser qui, en 1956, se moquait des Anglais en disant « Leur roi est une femme ». Commentaire de l'internaute « Une femme qui vaut 1000 hommes ».
Même question, Michel. À quoi s'intéresse prioritairement la presse israélienne en ce début septembre ?
Eric, c'est comme si l'actualité locale, pourtant très riche en événements, s'était d'un coup figée. La mort d'Elisabeth II... C'est le sujet qui fait la une de tous les médias ici, même si plusieurs commentateurs soulignent le fait que jamais elle ne s'était rendue en Israël, pour des raisons politiques, notamment pour ne pas heurter les sentiments de pays arabes proches de l'ex-empire britannique, estiment plusieurs articles. La couronne est orpheline, titre un quotidien. Pour Haaretz, le journal habituellement sobre dans ses titres, c'est la fin d'une ère, proclame-t-il, aux côtés d'une silhouette de la défunte reine. Elisabeth, poursuit le journal, a procuré à ses sujets un lien avec un passé prestigieux. Il est difficile d'imaginer que son fils Charles III soit à même de poursuivre cette tâche. Elle a su vivre et elle a su mourir, titre pour sa part le Yedioth Aharonot, une femme qui a tout vu au cours de sa vie, et aussi ce titre, le courage d'une mère dévouée. Éric Nombreux souligne ici qu'Elisabeth était un point de repère dans un monde changeant. On rappelle aussi que Charles est venu à deux reprises à Jérusalem, mais il ne s'agissait pas de visite d'État. Et aussi le fait que sa grand-mère, la mère du prince Philippe, repose dans un couvent de la partie orientale de la ville.
Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine, Michel ?
Des images des murailles de la vieille ville de Jérusalem et de la mairie de Tel Aviv recouvertes de gigantesques projections de l'Union Jack en hommage à Elisabeth II et ses mots qui désormais s'imposent « God save the King ».
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. Retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio et sur la plupart des plateformes numériques. Demain, focus sur la Turquie dont cette année 2022 marque le centenaire de la fin de la guerre d'indépendance, prélude à la fondation de la République moderne par Mustafa Kemal. Un important symposium se tient la semaine prochaine à Paris sur ce thème. À demain donc. Prenez soin de vous.